Le centre d'artistes, donc, qui a pignon sur rue, sur la rue Michaud, donc, à l'intérieur de la Coop Paradis, vont présenter, donc, la troisième édition, donc, d'un festival qu'on appelle le Festival Tendresse, un rendez-vous pour défier l'attendu. Ça se passe du 16 au 25 mai, donc, on va recevoir l'organisateur, donc, de ce festival-là, ce matin. Il est 6h15, c'est l'heure d'aller à la première pause de l'émission, première pause de la semaine, et par après, on va écouter la chronique donc de Jean-François Lépine. J'allais dire Jean-François Lisée, mais c'est Lépine, journaliste d'ailleurs émérite et aussi ex donc ambassadeur en Chine. Peut-être pas ambassadeur, mais chargé d'affaires. En tout cas, là, il y avait un poste important en Chine. Moi, j'admire ce bonhomme-là. Et il nous parle de l'entente là, qui a été signée dernièrement entre les États-Unis et l'Ukraine sur les minéraux critiques. Donc, on écoute tout ça après la pause qui suit.
Salut, Nissan!
Ah, Karine, petit jeu pour toi. Nomme-moi les différences entre le Kicks Play et le tout nouveau Kicks.
OK, le Kicks Play reste toujours un VUS compact, mais le tout nouveau Kicks est redessiné, en plus d'avoir la traction intégrale en option.
Mais tu connais bien tes Kicks, Karine?
Ouais, hein? Mais sais-tu ce qu'ils ont en commun?
Les deux profitent des offres de l'événement Décidé et Roulé.
C'est en plein ça?
Louez un tout nouveau Nissan Kicks sélectionné et choisissez entre un boni ou un crédit accessoire allant jusqu'à 1 200 $ ou 3 ans d'entretien prépayé. Jusqu'au 2 juin, sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
Des métaux ou un véhicule hors d'usage à recycler? Métal du Golfe à Saint-Anathlet vous les rachète. Cuivre, aluminium, acier et bien plus. En nous apportant vos métaux, vous recevez de l'argent tout en posant un geste concret pour l'environnement. C'est ça, recycler vers l'avenir. Métal du Golfe, votre partenaire pour le recyclage de métaux ferreux et non ferreux. Visitez-nous au 552 rue principale Ouest à Saint-Anaclet ou appelez-nous au 418-723-8885.
Ici Jean Brisson. Mesdames, messieurs, vous êtes à la recherche d'une bonne résidence pour aînés où l'on prendra vraiment soin de vous ou de votre aîné? Ah ben, vous aimeriez choisir la meilleure résidence de la région du premier coup? Faites le 418-723-0243. La résidence Seigneur Lepage de Rimouski répondra à votre appel et comblera toutes vos attentes. 418-723-0243.
La Coupe Memorial s'amène au Colisée Financière Sun Life de Rimouski du 22 mai au 1er juin prochain. Faites partie des personnes VIP qui vivront la soirée d'ouverture officielle exclusive de la 105e Coupe à l'Hôtel Rimouski dès 19h le 22 mai. Rencontrez les joueurs des quatre équipes du tournoi ainsi que des figures marquantes du monde du hockey. Régalez-vous d'un succulent repas aux saveurs régionales. Billets en vente dès maintenant au lch.ca, section Coupe Memorial 2025.
Ici David Prou, courtier immobilier résidentiel chez Via Capital Horizon. Fort de plus de 13 ans d'expérience dans la vente et les affaires à Rimouski, je mets maintenant mon expertise et ma connaissance du marché local à votre service. Que vous envisagiez d'acheter ou de vendre une propriété, je vous accompagnerai à chaque étape avec un service personnalisé et des conseils adaptés à vos besoins. Contactez-moi dès aujourd'hui au 418-740-2322 ou encore au info@commercial.viadavidprou.com. Ensemble, concrétisons dès maintenant vos projets immobiliers.
Rimouski 93.3
FM 93, la radio qui fait avancer les dossiers dans l'Est du Québec. Réveil Rimouski.
On va rester sur le thème international et aussi sur l'implication des Américains dans le conflit là-bas. Jean-François Lépine est avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour Patrick.
Donc il y a eu une entente, un déblocage là, sur la question des minéraux critiques là, du sous-sol ukrainien. Il y a une entente entre les Américains finalement et les Ukrainiens.
Oui, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Il y a eu toutes sortes de rumeurs autour de ça. Je t'ai même raconté la semaine dernière comment les Américains voudraient faire ça ailleurs dans le monde, comme en République démocratique du Congo. Alors, l'entente sur la création de ce qu'on appelle le Fonds États-Unis-Ukraine d'investissement dans la reconstruction, chaque mot est très important, le mot reconstruction est très important, ça a été signé tard mercredi soir par le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, qui est un personnage qui apparaît assez favorable, en tout cas, à l'appui à l'Ukraine, et la ministre de l'économie de l'Ukraine, qui s'appelle Yulia Sviridenko. Donc, après une ultime négociation, jusqu'à la fin, on a négocié. Qu'est-ce que ça veut dire, cette entente-là? Ça veut dire que les deux pays vont investir à part égale, 50-50, dans l'exploitation de minerais stratégiques, de terres rares, par exemple, ainsi que dans le secteur du gaz et du pétrole ukrainien. Pendant une première période de 10 ans, tous les profits de ces opérations-là seraient versés dans l'économie ukrainienne, justement pour permettre à l'Ukraine de reconstruire ses infrastructures détruites par la guerre. En signant l'entente, le secrétaire au Trésor dont j'ai parlé, Scott Bessent, a déclaré qu'il s'agissait d'un signal clair à la Russie que l'administration Trump s'engageait dans un processus de paix à long terme fondé sur une Ukraine libre, souveraine et prospère. Tous les mots sont importants dans tout ça. Hein. C'est un signal pour les Ukrainiens aussi qui attendaient une forme d'engagement des États-Unis qui leur garantira une forme de sécurité pour l'avenir. On pense que la seule présence d'investissement américain substantiel au cours des prochaines années, des prochaines décennies, ça serait peut-être suffisant pour garantir cette sécurité-là, mais on verra. Le fond, ce qu'il faut dire par contre, ne sera mis sur pied qu'après l'établissement d'un cessez-le-feu en Ukraine. Donc, il faut que les combats s'arrêtent pour qu'il y ait un climat intéressant, pour que des investisseurs, parce que c'est pas les gouvernements nécessairement qui vont investir là-dedans, c'est des entreprises. On ouvre la porte aux entreprises américaines pour qu'elles viennent investir en Ukraine. On ne sait pas d'ailleurs quelles réserves minières vont être offertes aux investisseurs éventuels. Mais ce qui est important dans l'entente, c'est qu'elle garantit, les mots sont très clairs dans l'entente, au gouvernement ukrainien le contrôle complet de ses ressources et de ses infrastructures. Ça veut dire que là où on va permettre des investissements étrangers américains, ben ça va être la décision du gouvernement ukrainien. Les Américains n'iront pas n'importe où sur le territoire. Donc, c'est un soulagement pour l'Ukraine avec cette entente-là. C'est une forme de garantie d'implication des États-Unis. Mais, autre soulagement aussi, il n'y a aucune mention qui est faite du fameux remboursement de l'aide militaire fournie par les États-Unis. Ça, c'était important. Hein,
oui, les faux 350 milliards. Là.
Exactement, qui disait, on vous a versé 350 milliards, il faut une entente qui va faire en sorte que vous allez rembourser ça. Aucune mention de ça. Ça, c'est très important. Mais il y a quand même une clause que j'ai lue hier dans le texte intégral. Peu de médias en parlent, mais la clause qui dit que si les États-Unis, advenant l'entrée en vigueur de cette entente-là, devait continuer à fournir des armes à l'Ukraine, la part des États-Unis dans le fonds en question devrait augmenter proportionnellement. En d'autres termes, si après l'entente, les États-Unis décidaient de fournir des armes à l'Ukraine, ben ils se rembourseraient à même l'entente. Donc, on aurait plus de possibilités d'investir dans l'entente pour se rembourser.
Jean-François, M. Trump le fantasme et fantasmait sur les richesses du sous-sol ukrainien. Ouais. Les Ukrainiens, eux, fantasmaient sur, en échange, des garanties de sécurité des Américains. Est-ce que ça, c'est quelque part dans le texte?
Alors ça, c'est la grande déception, même si le président Zelensky s'est réjoui du fait que l'entente assurait. Hein, je l'ai dit, pour les Ukrainiens, ils se consolent en disant le fait que les Américains viendront investir, ça va faire en sorte qu'ils vont nous protéger. Ils pourront pas ne pas nous protéger. Mais il y a aucune mention dans l'entente qui est faite, et c'est ce que les Ukrainiens, tu l'as dit, attendaient en retour de ces concessions minières. Hein, aucune mention n'est vraiment faite du maintien de l'aide américaine à l'Ukraine d'ici la fin de la guerre, ni après la fin de la guerre. Donc, aucune garantie d'assistance sécuritaire à l'Ukraine face à la Russie. Il y a tout au plus dans ça, on voit en tout cas peut-être un changement important quand même de la part de M. Trump qui est beaucoup moins agressif face à l'Ukraine, qui n'accuse plus l'Ukraine de bloquer le processus de paix face à la Russie. Hein, ça s'est fait, on s'en souvient même pendant la fameuse conversation dans le bureau ovale. Et tout le monde dit que c'est un peu cette entente-là, le résultat aussi de la fameuse conversation qu'on a vue entre M. Trump et M. Zelensky, très intime, en pleine grande basilique de Saint-Pierre de Rome, en marge des funérailles du pape François. Tu te souviens de cette image-là?
Oui.
Alors donc, c'est une entente qui n'est pas évidente pour l'Ukraine, parce qu'on n'en connaît pas toutes les implications. L'entente, d'ailleurs, doit être entérinée par le Parlement ukrainien. Est-ce que le Parlement la rejettera? Mais il faut le rappeler aussi, elle ne pourra pas être mise en application, cette entente-là, avant qu'il y ait un arrêt des combats. Puis là, on en est loin.
OK. Entre-temps, la guerre continue. Hein? Fabrice de Pierrebourg nous en parlait.
Il va en parler concrètement.
Ben oui, il va se rapprocher du front, puis il y a des civils là qui sont ciblés. Et là, la Russie, quand même, là, qui jase avec les Américains, pose de plus en plus de conditions pour l'arrêt des combats.
Alors, c'est là qu'on on essaie de mesurer un peu quelle est la résistance ou la force de conviction, par exemple, d'un Donald Trump dans cette situation-là. Parce que les Russes, eux, publiquement, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, chaque fois qu'il parle, il rajoute de nouvelles exigences de la part de la Russie. Là, on exigerait, on retourne à la case départ, là, quand la Russie a envahi l'Ukraine. On exigerait la démilitarisation complète de l'Ukraine. Donc, une Ukraine qui pourrait pas se défendre. Et la fameuse dénazification de l'Ukraine que les Russes ont inventée dès le début de cette offensive-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent justement de quel rôle les Américains jouent vraiment dans cette négociation-là, quand on voit à quel point les Russes font des déclarations qui sont vraiment de plus en plus exigeantes en termes de concessions de la part de l'Ukraine. On sait que les États-Unis étaient prêts récemment à concéder, par exemple, le fait que la Crimée fait partie intégrante de la Russie ne sera jamais concédée. Les territoires conquis par les Russes depuis l'invasion de février 2022 ne pourraient pas non plus être contestés par l'Ukraine. Les Russes demandent même, Patrick, ça c'est important là, que les territoires des provinces ou des oblasts, comme on les appelle, les territoires qui n'ont pas été entièrement conquis par la Russie, soient quand même concédés à la Russie. On parle des provinces de Kherson, de Zaporijjia. Il y a même aussi une question, les Américains avaient dit, il y a, au cœur de ce conflit-là, il y a cette importante centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. C'est la plus grande d'Europe. Dès le début de l'invasion russe, elle a été saisie par les Russes qui en maintiennent encore le contrôle. C'est extrêmement important au cœur de l'Ukraine. Les Américains avaient dit à un moment donné, on pourrait nous prendre le contrôle de ça, de cette centrale-là, puis ça serait une partie du règlement. Plus personne n'en parle aujourd'hui. Ce qui inquiète, comme je te le disais, c'est un peu entre le secrétaire d'État Scott Bessent, qui est très pro-reconstruction, pro-assistance à l'Ukraine, et l'attitude publique ambiguë de Donald Trump. On se demande un peu où tout ça s'en va, puis on dit même que peut-être qu'en voyant l'établissement de ce fameux fonds avec l'Ukraine, M. Poutine pourrait se retourner vers les Américains et proposer un accès beaucoup plus intéressant aux investisseurs américains, aux ressources naturelles russes, qui sont bien plus importantes que celles de l'Ukraine, étant donné que c'est un territoire trois fois plus grand. Donc, encore une fois, la Russie est bien positionnée sur le front. Elle avance pas beaucoup, mais on le voit, ils ont une capacité de frappe sur l'Ukraine qui est terrible. La Russie mise visiblement sur l'impatience d'un Donald Trump qui veut une solution à tout prix, hein? Par quel moyen va-t-il y arriver? Mais surtout, je pense, moi, qu'il faut dire que la Russie mise surtout sur la lassitude des Ukrainiens, malgré ce que Fabrice a dit. C'est connu dans les sondages et tout ça. Les Ukrainiens, après 3 ans de guerre, ne voient pas d'issue. Ça, Fabrice l'a dit. Mais ils pourraient perdre le moral puis se contenter d'une solution, d'un compromis dans une négociation de paix. Ce serait extrêmement dangereux pour l'avenir de l'Ukraine.
Avant qu'on se quitte, Jean-François, je veux que tu réagisses là à la nomination de Marco Rubio, qui est déjà le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État des États-Unis. Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale, a été tassé, est envoyé à l'ONU, et on donne le mandat de la sécurité nationale à Marco Rubio. Ça fait beaucoup de chapeaux.
Oui, Marco Rubio, d'ailleurs, qui dans toute sa carrière politique, on peut pas dire que c'est un homme qui a une expérience de la planète, qui a une expérience des affaires étrangères. Il est intervenu dans quelques dossiers. C'est un Cubain d'origine, donc il s'est intéressé à la question de Cuba, à la question de l'Amérique latine. Mais ce qui est important de dire, d'abord, non seulement ce personnage-là va devenir un des ministres les plus importants, un des secrétaires dans le cabinet de Monsieur Trump les plus importants, parce qu'il va combiner deux fonctions cruciales. Les affaires étrangères, donc le secrétariat d'État et conseiller à la sécurité nationale. C'est un poste qui a été occupé une fois par un personnage qui s'appelait Henry Kissinger. C'était sous Nixon et sous Ford. Mais on avouera franchement que Henry Kissinger avait cette expérience et cette connaissance de la planète, ses réseaux à travers le monde qui étaient extrêmement important, sans comparaison, même après ça. Alors que Marco Rubio ne semble pas être de taille pour faire ça. Pour l'instant, il est conseiller intérimaire à la Sécurité nationale. Est-ce qu'il va conserver ces deux fonctions-là? En tout cas, moi, je trouverais ça presque dangereux d'une certaine façon, compte tenu du fait que cet homme-là a déjà fait des déclarations intempestives, entre autres en Europe, qui lui ont été reprochées. C'est un homme qui n'a pas beaucoup d'expérience internationale.